everybody.
Bonsoir, nous sommes aujourd'hui avec Joël Cohen et c'est le premier de nos invités qui a reconnu le générique de cette émission, autrement dit après le Messie de Handel version Beecham et version Minkowski, cette relecture du Every Valley par Mervyn Warren qui avait signé un exercice de style assez bluffant en 1992 pour Nonesuch, un résumé à la fois du Messie de Handel et de l'histoire de la musique soul. Tout cela en moins d'une heure est taillé sur mesure pour la pléiade de stars qui se succèdent au fil du disque, notamment Diane Reeves, les Tech Six, Al Jarreau, Stevie Wonder et Quincy Jones. Quincy Jones qui nous ramène à la musique baroque puisqu'on oublie souvent qu'il est venu étudier à Paris au milieu des années 50 et qu'il y a suivi les cours de Nadia Boulanger. Et la musique baroque, on le sait, elle doit beaucoup à cet immense pédagogue qui a compté notamment John Eliot Gardiner parmi ses élèves, et qui a la première enregistrée des madrigaux de Monteverdi. Ce disque, il est paru en 1937 et il a une histoire incroyable. Nadia Boulanger avait fondé un petit ensemble vocal pour redécouvrir la musique ancienne, avec notamment la soprano Marie-Blanche de Polignac, autrement dit la princesse de Polignac. L'ensemble déchiffrait énormément de musique, se produisait essentiellement en privé ou lors des cours que donnait Nadia Boulanger à l'école normale de musique. Et le morceau favori de l'ensemble, c'est vite devenu le Lamento della Ninfa que chantait justement Marie-Blanche de Polignac. Le comte de Polignac, son époux, décide d'en faire un 78 tours à grands frais, un disque hors commerce qu'il veut offrir à ses amis le 1er janvier 1937. Mais il ne leur a finalement pas fait ce cadeau divinement chic, puisque Georges Truc, le directeur artistique de La Voix de son Maître, a persuadé Nadia Boulanger d'enregistrer non pas un 78 tours, mais un coffret de 5 78 tours édité pour le 350e anniversaire de Monteverdi, qu'on fêtait donc en 1937. Et le plus délicieux de l'histoire, c'est l'anecdote que nous rapporte Doda Conrad, qui participait donc à l'enregistrement. Marie-Blanche de Polignac est un peu déconcertée quand elle arrive rue Albert dans le 13e et découvre le garage désaffecté qui servait de studio avec des matelas crasseux sur les murs pour améliorer, en tout cas c'est ce qu'on pensait, pour améliorer l'acoustique. Alors elle glisse un mot à l'oreille de son chauffeur et le chauffeur revient une demi-heure après, accompagné du maître d'hôtel et d'une grande caisse. On en sort un plateau d'argent, des coupes de champagne et une bouteille de pommerie déjà glacée.
Oh!
C'était la délicieuse Marie-Blanche de Polignac dans le Lamento della Ninfa en 1937, avec Nadia Boulanger au piano, avec le baryton Dodda Conrad, les ténors Paul de Rennes et Hugues Queneau. Et si vous ne supportez pas ce qui a évidemment vieilli dans le chant de la princesse de Polignac, n'oubliez pas qu'il y a bien pire dans la série « Je suis riche et j'ai envie d'offrir ma voix à l'éternité ». Car c'était presque une mode au début du XXe siècle de se faire enregistrer dès qu'on avait un peu de voix et surtout beaucoup d'argent. Les gravures de Florence Foster Jenkins se sont bien connues. Le label Homophone vient de consacrer un album à d'autres milliardaires mélomanes qui font désormais partie de la grande histoire du rire. Le plus souvent, ces milliardaires chantaient le grand répertoire lyrique à Fontaine, Verdi, Mozart, Puccini, Bizet. Parfois, c'était Bizet ou Mozart qui n'en sortaient pas vivants. Mais l'une d'entre elles, une certaine Betty Jo Schramm, s'intéressait déjà au début des années 50 à la musique baroque. Alors le texte de présentation du disque Homophone nous apprend que son enregistrement du Vatrala Selvé de Crown a été retrouvé dans les archives d'Harold Schoenberg, le célèbre critique du New York Times, et que c'est un 78 tours enregistré à titre privé, avec seulement le nom de l'œuvre et de l'interprète noté sur une petite carte qui l'accompagnait. Bref, on ne sait rien d'autre de cette terrifiante Betty Jo Schramm, sinon que c'est peut-être un pseudonyme et qu'elle avait redécouvert avant tout le monde l'intérêt du La 415 pour la musique baroque. Le seul problème, c'est que l'orchestre n'était pas au courant.
Ta lesi vir kane, pa lor geni ta.
Et oui, je crois qu'Arielle Dombal et Nella Onfuso ont quelques soucis à se faire. Elles ne sont pas seules, elles ont des ancêtres.
De l'air.
Et c'était Madame Betty Joshram dans un air du Artaxerxès de Graun, réédité dans l'album The Muse Surmounted, donc la muse surmontée. Une série de documents d'archives donc assez affligeants, réédités chez le label Homophone. Et je vous assure, ce n'est pas un poisson d'avril quelques jours avant la date. Ce disque existe vraiment, vous pouvez le trouver en magasin. Et on y entend même une interview de Cosme McCoom, qui était le pianiste qui accompagnait Florence Foster Jenkins dans ses fameux enregistrements. Quant à la mystérieuse Betty Joshram, si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire sur le site de l'émission, vous tapez francemusique.com. Car j'aimerais bien en savoir plus sur cette dame. Puis sur le site de l'émission, vous pourrez trouver également le détail des œuvres qu'on entend toutes les semaines. Alors, on revient aux choses sérieuses. À Nadia Boulanger, à ses élèves. Outre Quincy Jones, il y avait dans la classe de Nadia Boulanger, ou plutôt dans les classes de Nadia Boulanger, au conservatoire de Fontainebleau, et puis à l'école normale, de nombreux élèves américains. Il y a eu Philip Glass, il y a eu Aaron Copland, il y a eu Virgin Thompson, Leonard Bernstein, Elliot Carter, Ned Rorem et Joel Cohen qui est avec nous ce soir.
Bonjour.
Bonjour Joel.
Bonsoir
Cohen.
Plutôt.
Comment est-ce que vous êtes arrivé dans la classe de Nadia Boulanger?
Ben, je me suis pointé chez elle. Elle recevait le mercredi après-midi. Il y avait, je ne savais pas ce que j'allais faire à Paris. J'avais une bourse pour étudier de la musique à Paris. Il y avait là Crane Oak, dont j'avais les 33 tours. Il faisait des disques de chansons lues. J'ai dit, Monsieur Crane Oak, je vous admire beaucoup. J'ai tous vos disques. Boulanger dit, qui c'est ce jeune homme? Je l'aime bien. Venez me voir le lendemain. Elle m'a accepté tout de suite comme élève.
Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné?
Alors, elle m'a appris, théoriquement, moi je faisais le traité d'harmonie de Dubois et le traité de contrepoint de comment ça s'appelle, l'organiste Marcel...
Marcel Dupré.
Oui, c'est ça, Marcel Dupré. Voilà, et je composais des choses que je lui montrais, mais c'était surtout une vibration qu'elle faisait passer. Elle était très sévère, son enseignement était tout ce qu'il y avait de plus académique, mais en même temps, il y avait un souffle dans sa vision des choses. Il faut se rappeler aussi qu'elle avait à cette époque-là 78 ans, donc elle était plutôt jeune, donc elle était, disons, peut-être un peu moins souple qu'au début. Donc je l'écoutais, elle racontait des anecdotes sur sa vie, sur la religion, sur le pape, sur les jeunes femmes qui se promenaient en bas, la place Clichy. Il y avait du tout dans son enseignement. Et au bout de 2 ans, par osmose, j'ai assimilé quelques principes, je pense.
Qui étaient les autres élèves à l'époque dans la classe de Nadia Boulanger?
J'ai Phil Glass avec moi de temps à autre, on se voit, on se rappelle tout ce temps-là. Elle faisait pleurer ses élèves dans la classe d'accompagnement. Oh, elle commençait à battre les élèves qui n'étaient pas assez performants. Je me rappelle avoir eu... Je suis rentré avec mal à l'épaule une fois. Il y avait Gardner qui était là. J'ai partagé beaucoup de temps avec le petit-fils de Chaliapin qui malheureusement est disparu depuis, qui est aussi un élève du TIE. Et bon, ça fait plaisir de voir que certains ont fait leur chemin depuis. C'était une espèce de moment hors du temps, de l'espace... J'ai beaucoup apprécié.
Est-ce que vous vous intéressiez déjà à la musique baroque et à la musique ancienne à cette époque-là?
Oui, j'étais convaincu que j'allais... Bon, d'abord, je suis allé pour étudier la composition, mais je savais que j'allais gagner ma vie en faisant la musique ancienne. J'avais déjà attrapé le virus quelques années auparavant. Et donc, quand j'ai fini par faire un disque de chant de Don John Darland avec Queno, on fait ça, Nadia Boulanger m'a fait un très gentil lettre que je garde toujours à mon mur. Mais à cette époque-là, où je savais que le Renaissance, le baroque, le Moyen-Âge, c'était des époques qui me touchaient tout spécialement.
Et comment vous aviez découvert ces répertoires aux États-Unis à la fin des années 50, au début des années 60?
Ah oui, ben, vous savez, à l'époque, il y avait le folk music boom. Donc tout le monde gâtait une guitare et chantait des choses. Moi, j'ai fait de la guitare classique et par hasard, j'ai allé dans la bibliothèque universitaire. Je trouvais des tablatures de luth de John Dowd. Et j'ai commencé à décrypter moi-même à la guitare les tablatures. Et un jour, je me suis baladé à Cambridge, qui était le paradis des folkers, Cambridge, Massachusetts, et je voyais dans une vitrine un luth. Bon, c'était luth guitare, je ne savais pas la différence. C'est luth guitare allemand des années 20, accordé comme une guitare. Je l'ai acheté pour, je ne sais pas, 50 € de l'époque. Et je commençais à... C'était très bien parce qu'on pouvait s'asseoir sur les bancs de la rivière, le Charles, et on avait tout de suite des jeunes personnes charmantes autour de soi. Donc c'était un objet de séduction, mais finalement, peu à peu, on m'a mis un vrai luth entre les mains au musée. Et je commençais à étudier avec un peu plus de sérieux.
Mais qu'est-ce qui vous a montré comment poser les doigts sur le luth, comment essayer d'avoir un toucher?
C'était le traité de Dowland lui-même qui,
disait
un plain and easy introduction. Non, j'avais une formation correcte de guitare classique.
Mais pour le luth, vous avez.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transfèrent, puis il y a d'autres choses qui sont différentes.
Ouais.
Donc, mon technique personnelle est un mélange de guitare classique et de luth. Quand je joue de luth, c'est pas le technique de luth classique du 16e siècle, mais enfin, personne n'utilise ça maintenant. Ils font tous des salades mélangées.
Puisqu'on sait, ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que vous avez été un fou de jazz, et même vous avez travaillé à France Musique sur ces ondes.
Oui.
Vous avez parlé de musique baroque pendant les années 70 sur les ondes de France Musique, et un peu de jazz aussi.
Oui, puisqu'on parle des personnages comme ça disparus, Nadia Boulanger, elle tient une place dans ma vie, bien sûr. Mais je n'ai jamais rencontré Billie Holiday, par exemple, mais entre 12 et 18 ans, j'écoutais beaucoup sa voix. C'est du grand art. On a entendu peut-être le pire de la musique américaine tout à l'heure avec cette personne, enfin, pleine de bonne volonté, qui cherche à chanter grand. Mais c'est ce qui est le plus profond, du plus beau et peut-être d'éternel, se trouve dans la voix de Billie Holiday. C'est une leçon à plusieurs niveaux. D'abord de diction, parce qu'elle dit un texte, elle déclame un texte, comme Monteverdi demande à ses chanteurs de le faire. Alors, il n'a jamais entendu parler de Monteverdi. Et puis, on parlait du rubato dans la musique ancienne, si c'est à propos. Et là, il y a une leçon du rubato pour n'importe quel interprète et n'importe quel style. Et puis, troisièmement, il y a une leçon d'humanité énorme.
Vous pensez que cette liberté, cette souplesse, finalement, dans le rapport à la musique, dans le rapport au texte, on peut l'avoir dans la musique, disons, dans la musique savante, dans la musique baroque, dans la musique médiévale?
Mais c'est tout. C'est ce que je cherche à faire. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je cherche à apporter, si vous voulez, parce que maintenant, on est tellement dans l'académie, et je pense qu'il y a une académie pour Chopin, mais malheureusement, il y a aussi une académie pour Handel, pour Monteverdi, parce qu'avec la jeune génération du chant de musique baroque, on a aussi maintenant des styles, des conventions. Je cherche à retrouver ce qui est entre les temps, vous savez, quand ces musiciens jouent en 4-4, il y a un premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Il y a le cosmos entre chaque temps dans cette 78 tours. Moi, je cherche à trouver le cosmos. Je fais comme je peux. Hein.
Alors, pour trouver ce cosmos, vous êtes arrivé à la tête de la Boston Camerata en 1968. Et la Boston Camerata, on oublie souvent qu'elle a été fondée en 1954, donc il y a un peu plus de 50 ans. Comment est-ce qu'un ensemble baroque peut naître aux États-Unis au début des années 50?
Ça paraît impossible, n'est-ce pas? En fait, je me dis, parce qu'on n'a pas les subventions qu'on peut avoir en Europe, on fait ça avec des fois du chewing gum et des bouts de ficelle. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ensembles de musique ancienne qui datent de 54 qui fonctionne toujours. Donc, on fait comme on peut pour, non pas seulement pour survivre, mais pour partager un élan, une idée de ces répertoires-là.
Et d'où est venue l'impulsion en 54 pour la Boston Camerata?
C'était une femme admirable qui était au musée de Beaux-Arts, qui s'appelait Narcissa Williamson, qui savait qu'il y avait une grande collection d'instruments anciens qui pourrissaient au sous-sol. C'était une donation dans les années 15 ou 20. La famille d'une jeune femme qui est morte dans le Titanic. Non, mais c'est une histoire de Titanic, hein, tout ça. Et ses parents, pour honorer sa mémoire, parce qu'encore une musicienne amateur, au lieu de faire des 78 tours, on rachetait une énorme collection d'instruments anciens en Angleterre, du canon Galpin, qui était un nom que tout le monde connaît dans l'orgonologie. Il a donné au musée de Beaux-Arts et ils ont dit, bon, maintenant, on vous fait cadeau de cette collection, mais la condition, c'est que vous trouvez une salle pour l'exposer. Le musée de Beaux-Arts a accepté le cadeau et elle a enfoui au sous-sol. Mais c'est beau, les cadeaux, comme ça. Et Narcissa est allée avec un avocat chercher le terme de la dotation et elle a obligé le musée de donner une salle et elle a fondé un ensemble de musique ancienne avec. C'est formidable, c'est une histoire extraordinaire d'une petite bonne femme qui n'avait l'air de rien du tout. Et c'est souvent ces gens-là qui font l'histoire.
Il y avait d'autres ensembles de musique ancienne aux États-Unis, avant-guerre même, ou
oui,
au début des années 50?
Oui, mais vous savez que Hindemith était aux États-Unis, oui. il a fait une collégium à Yale, Nadia Boulanger faisait un Madrigal Group. Moi, j'ai rencontré, il y a deux semaines, la fille qui faisait soprane dans le groupe de Madrigal de Nadia Boulanger, entre 1940 et 1944, à Cambridge, Massachusetts. Donc, il y a eu cette tentative-là, il y a Noel Greenberg, qui était le premier à avoir réussi sur le plan commercial, un ensemble vivant de musique ancienne, renaissance et baroque, avec le New York Pro Musica. Donc, il y a eu des gens avant moi et nous sommes très reconnaissants pour tout ce travail de pionnier. Ceci dit, je pense que la Boston, quand même, on est à 50 ans cette année. Bon, on est dans la durée. Aussi, j'espère qu'on est aussi dans la beauté, c'est aux autres de juger.
Quand vous arrivez à la tête de la Boston Camerata, donc en 68, quel est votre projet?
Mon projet était de professionnaliser l'ensemble parce qu'il y avait un groupe énormément sympathique de musiciens, dont certains qui avaient des très bonnes bases techniques et d'autres qui étaient surtout là parce qu'ils aimaient la musique. Et peu à peu, j'ai engagé des gens qui avaient déjà le technique nécessaire pour faire des concerts en public. Et avec les années, on a vu ça. Bon, nous, on a un peu influencé peut-être la jeune génération avec nos options esthétiques et aussi d'autres personnes arrivent avec leurs idées. Et peu à peu, le style de l'ensemble, la façon de faire des musiciens, le style de chant, le style de jeu instrumental évolue et voilà, on cherche toujours, même quand on prend un programme qu'on fait depuis sept hommes de saison, on cherche toujours à faire un peu mieux cette fois.
À cette époque-là, le répertoire de la Camerata était plutôt orienté vers la musique médiévale ou vers la musique baroque?
C'était vraiment, et là c'est l'héritage de cet ensemble-là, c'est un ensemble spécialiste, non spécialiste. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de groupes de très haut niveau qui vont faire que le 14e siècle ou que le 17e français, et à l'époque on faisait du tout. Bon, c'est vrai que la Boston depuis quelques années, c'est un peu axé vers le Moyen-Âge méditerranéen et vers la musique américaine. Cependant, il nous arrive toujours de faire des concerts Renaissance, des concerts baroques. C'est un peu les lois du marché américain, et c'est parce qu'il faut quand même trouver son public, mais c'est aussi parce que j'aime ça. J'aime pouvoir voyager dans le temps, voir d'autres répertoires.
Alors, la fin des années 60, c'était le grand boom d'une certaine conception de la musique médiévale, oui. Une conception assez babacool, assez très folk,
oui.
Parfois exotique, orientée vers les musiques, disons, d'Extrême-Orient ou vers, oui, les musiques d'Inde, etc. Et vous êtes un peu posé en porte-à-faux contre cette conception de la musique. Je me souviens d'un article de vous où vous parliez de ces salades composées qu'on faisait entre Bernard de Winterhorn et Ravi Shankar.
Oui, mais c'est justement, je ne veux pas être trop négatif. Pour moi, ce que nous faisons plus récemment est une évolution. J'ai été beaucoup inspiré, par exemple, par Thomas Pinkley du studio de musique ancienne de Munich et Andrea von Rahm, célébrissime contralto qui faisait justement les troubadours avec des instruments arabes. J'étais inspiré. Maintenant, les options dans le concret qu'ils ont choisi, je ne les trouve pas très fondées historiquement, mais l'idée qu'il y a quand même un lien là avec notre passé à nous et des choses qui se sont passées par exemple dans l'Espagne médiévale, dans l'Espagne des trois religions, je cherche à valider ça, mais avec d'autres moyens. Par exemple, dans le disque de Cantigas qu'on a fait il y a quelques années, je prends ce manuscrit espagnol du 13e siècle, sachant qu'à la cour du roi Alphonse, d'où vient le manuscrit, la moitié de son orchestre était musulman. Donc je suis allé à Fès et trouvé un ensemble de très haut niveau dirigé par Mohamed Brioel et on a fait des miracles de la Vierge Marie avec ce qui pourrait être, peut-être dans chaque détail, sûrement pas dans chaque détail, mais peut-être dans les grandes lignes, le son d'un orchestre royal en Espagne au XIIIe siècle, mélange d'arabes, de chrétiens, de juifs.
Joël Cohen, on vient d'entendre Anazema en soprano solo, c'est votre femme, vous partagez sa vie depuis
depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans, voilà. Et pour moi aussi, c'est une leçon d'humanité, de savoir. Je n'ai jamais eu le privilège de connaître Billie Holiday, mais bon, c'est une autre muse qui est présente là, sur les disques et aussi dans ma vie. Donc, je suis reconnaissant pour ce cadeau.
Alors, on vient d'entendre finalement une musique qui circule dans tout le bassin méditerranéen, depuis les pays du Maghreb jusqu'à l'Espagne. Et puis, parfois, les musiques circulent sur des étendues beaucoup plus longues. Par exemple, vous avez travaillé sur la musique de Nouvelle-Espagne, autrement dit du Mexique.
Mais c'est un peu la même recherche, si vous voulez. C'est la fascination de ce qui n'est pas écrit et qui est entre les temps, comme dans le disque de Billie Holiday. Donc, pour le programme Nueva España qu'on va donner à Paris, au théâtre de la ville, je me suis penché pas mal sur les influences africaines qui se trouvent dans les manuscrits, parce qu'on cherche à capter les rythmes africains déjà au XVIIe siècle, par les compositeurs qui sont formés au Mexique, à Séville, en Espagne, qui voyagent au Mexique et qui voient cette vie grouillante autour d'eux et qui cherchent à intégrer, comme Bartok, par exemple, a fait avec le folklore hongrois, qui cherchent à intégrer les sons indiens, les sons africains. Mais pour arriver à ça, ce qui est noté ne suffit pas. Donc, j'ai fait appel, comme j'ai fait appel à des musiciens andalous arabes pour les cantigas, j'ai fait appel pour certaines plages de Nouvelle-Espagne à des collègues haïtiens qui chantent dans une église à Boston pour faire la partie africaine que nos musiciens peuvent tenter de le faire, mais qui ne sera pas complet à 100%. Donc, dans le Noël, par exemple, Convidando esta la noche, vous avez des rythmes de guaracha. La guaracha, toujours très célèbre à Cuba, était au Mexico. C'est une danse africaine à l'origine. Donc, vous avez de nouveau un mélange de musiciens avec une formation purement classique. Le guitariste est mexicain. Il y a un Nigérien dans le choral, soi-disant polyphonique. Et les voix de femmes que vous entendez en chœur sont une chorale haïtienne.
On écoute ce Noël mexico-africo-américain tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui par la Boston Camerata. Et à Noël au Mexique, ça swingait en 1650. Cohen, ce Noël mexicain de 1750, c'est West Side Story avant l'heure?
C'est West Side Story avant l'heure, voilà. C'est le burrito, plein de bonnes choses.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver finalement des couleurs vocales aussi typées, aussi nasales, aussi perçantes?
L'essentiel, c'est de choisir les gens. Je ne sais pas combien de fois les gens me demandent par l'Internet, envoyez-moi la partition, s'il vous plaît, j'adore ce morceau. Alors, je renvoie, et puis ils m'écrivent en disant, mais non, c'est pas ça, je voulais ce truc-là. Mais je donne la musique à des gens. Et je dis, faites ça. Ils le font avec leur style, avec leur feeling.
Mais c'est vrai, ce qu'on garde dans l'oreille, c'est une couleur finalement très
caractéristique. C'est fantastique. Mais ces femmes qui rajoutent, bon, vous dites NASA, c'est une couleur. Elles chantent les hymnes tous les dimanches. Je vais à leur église assez souvent pour écouter les hymnes haïtiens. Et c'est avec cette couleur-là, c'est très africain. Et c'est très beau. Je ne demande pas, je leur demande de faire autre chose que ce qu'ils savent faire. Donc, c'est excessivement délicat, cette histoire de vouloir amener d'autres traditions dans la sienne. Mais c'est demandé par les partitions qui m'intéressent. Évidemment, ce sont des expériences, mais je cherche à capter quelque chose qui, quelque part, a dû exister.
Et ce retour aux sources, ce retour finalement aux racines d'un répertoire, vous l'avez fait pour la musique mexicaine, vous l'avez fait pour la musique médiévale d'Espagne, par exemple, vous l'avez fait aussi pour la musique américaine, pour le folklore et pour la musique religieuse américaine.
Mais oui, l'idée reçue, c'est que l'Amérique n'a pas d'histoire, ou que l'histoire est tout récente, ou que c'est Chicago, ou que c'est New York, parce que les Européens connaissent surtout les grandes villes. Mais dans les campagnes, il y a eu, il pour le compte, évidemment, c'est les campagnes qui ont fait peut-être un mauvais choix politique en novembre. Donc, je fais abstraction de ça. Dans les campagnes, il y a aussi un mémoire du passé qui peut être très riche, qui peut renfermer, par exemple, beaucoup de choses qui viennent de l'Europe ancienne, de la France du XVIIe siècle, de l'Angleterre du temps de Shakespeare, et qui gardent ces traditions-là, évidemment, qui transforment pendant la génération, mais qui n'oublient pas. Comme nous, dans les villes, nous sommes impatients de nouveautés, on a le mémoire plus court. Donc, je vais souvent, je prends l'avion pour aller à écouter des congrégations dans le sud, chanter dans les polyphonies qui rappellent beaucoup les polyphonies corses et qui ont des superpositions de cartes et de quintes qui rappellent des fois la musique française du Moyen-Âge. C'est tout à fait étonnant.
Alors, Joel Cohen, ce qu'on vient d'entendre, c'est une des fameuses captations réalisées par Alan Lomax pendant les années 50.
Très récemment, oui.
Un grand chercheur, un grand ethnomusicologue. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ces traditions sont encore là? Et est-ce qu'à votre avis, demain, elles seront toujours dans les campagnes?
Comme on dit, ça persistera, Inch'Allah, comme on dit dans le sud des États-Unis. Ça persistera parce qu'il y a une jeune génération qui a pris le relève de ces personnes, la plupart des gens qui chantent là, ça c'était il y a 40 ans ce captage. Donc maintenant, il y a d'autres gens qui ont pris la relève et on continue à chanter ces polyphonies qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses, qui sont un héritage à la fois américain et aussi qui captent une partie de l'héritage européen par la façon de concevoir la polyphonie et même par les mélodies qui peuvent être très très anciennes. Donc nous faisons tous comme nous pouvons pour conserver la mémoire parce que la tendance de la vie moderne, c'est d'effacer le souvenir très rapidement.
Vous avez enregistré chez Erato toute une série sur le répertoire folklorique et sacré
7-8,
américain.
7-8 CD, oui.
Et parfois, on découvre des mélodies absolument magnifiques. Il y en a une qui me touche beaucoup, c'est cette mélodie qui s'appelle Hartfield.
Ah oui, c'est très beau ça. C'est une mélodie que j'ai trouvée dans un manuscrit dans la bibliothèque publique de la ville où j'habite, Newburyport, Massachusetts. Et vous allez les voir, c'est presque organal. Il y a les consonances sur les quintes et la mélodie modale. Et c'est une œuvre qui dure quoi, 2 ou 3 portées sur une page, mais qui renferme un monde.
Alors, Joel Cohen, le monsieur Mansfield qui a compilé ce recueil The American Vocalist, il notait en tête de Hartfield, je cite, « Hartfield fait pleurer alors que les compositions d'aujourd'hui ne font pas grand effet ».
Oui, c'est la guerre esthétique qu'il y a eu au début du 19e siècle américain, parce que les premiers chants américains sont, si vous voulez, très atavistes. C'est dans les modes de l'église médiévale. C'est avec des harmonies qui sont très ad hoc et qui rappellent souvent le polyphonie du Moyen-Âge. Et vers 1820, vous avez des gens qui ont dit « Non, moi j'ai fait des études en Angleterre et on n'écrit pas comme ça ». On commence à supprimer tant qu'on peut tout ce style archaïque. C'est à la perte de la musique américaine d'ailleurs.
Alors, vous voulez dire que pour apprécier ce répertoire folklorique et sacré américain, il faut le resituer dans une perspective historique
en fait. Moi, je le resitue. Les gens qui continuent à le chanter, parce que dans le Sud, il y a quelques groupes qui le continuent, ils n'ont pas nécessairement cette perspective. Ils le chantent parce que c'est de la belle musique. Mais je pense que c'est très enrichissant de le voir dans un contexte plus global que tel et tel village dans une petite ville du Sud. Ça fait partie d'une longue chaîne d'évolution.
Et dans cette longue chaîne d'évolution, on a aussi les racines qui viennent d'Europe. Mm-hmm. Et vous avez consacré un album qui s'appelle New Britain, oui. Finalement aux sources européennes de certaines mélodies qui sont encore en pratique aujourd'hui.
Exact.
Et il y en a une qui est assez délicieuse qui s'appelle Gypsy Davy.
Oui, c'est l'histoire de la jeune femme de bonne famille, fraîchement mariée avec un petit enfant en bas âge qui quand même lâche tout pour partir avec les gitans.
Où est-ce qu'on la chante, cette mélodie, aujourd'hui?
Il doit y avoir 50 versions. Il y a des versions écossaises, des versions anglaises. Je pense que les sources les plus anciennes remontent au fin 16e ou début 17e siècle. Et la version que nous chantons, qui est dans une gamme pentatonique, a été trouvée dans l'Ohio en 1920 ou quelques. Mais chantée aujourd'hui, mais c'est une chant qui a 3 siècles au moins.
Donc on écoute d'abord un solo de flûte à la façon écossaise des années 1650 et puis la version de l'Ohio 1920. Thank you.
Gypsy Davy came over the hill, down through the valley shady. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. Ah-dee-doo, ah-dee-doo. Sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. My lord returning home that night, and asking for his lady, the servants gave him this reply: she's gone with a gypsy Davy. Ah-dee-doo, ah-dee-doo. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. Oh, saddle to me my jet black steed, the brown one is not speedy. Oh, saddle to me my jet black steed, till I seek and find my lady. Ah-dee-doo, ah-dee-doo, ah-dee-day. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. He sought her up and he sought her down, through woods and valleys shady. He sought her down by the muddy water side, and there he found his lady. Ah-dee-doo, ah-dee-doo, ah-dee-day. Ah-dee-doo, ah-dee-day. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. What made you leave your house and lands? What made you leave your baby? What made you leave your own wedded lord to go with a gypsy Davy? Ah-dee-doo, ah-dee-doo, darling. Ah-dee-doo, ah-dee-day. He whistled and he sang till the green woods rang, and he won the heart of a lady. I never loved you in my life, I never loved my baby, and I never loved my own wedded lord like I loved the gypsy Davy. Ah-dee-doo, ah-dee-doo, and he won the heart of a lady.
Alors Joel Cohen, la musique américaine, les sources de la musique américaine, vous êtes allé les rechercher très loin, en Europe et puis au Mexique, mais vous avez cherché aussi ces sources finalement au début du siècle, ce qui arrivait par exemple avec la musique de Kurt Weill.
Oui, on a fait le Kurt Weill parce que les disques de musique ancienne américaine ont bien marché commercialement, il faut dire ce qui est vrai, et donc j'ai demandé de faire une chose qui était carrément musique moderne, et le Kurt Weill, c'est une partition, c'est la première partition qu'il a composée en arrivant comme réfugié.
C'est quel homme ?
L'Europe, 1936.
Et donc c'est Johnny Johnson.
C'est un texte absolument contemporain, parce qu'il parle de la futilité de la guerre en 14-18. Le jeune soldat qui part libérer des pays étrangers et imposer la démocratie par la force des armes et qui voit la futilité de tout ça. C'est un texte fantastique et on l'a donné quelques jours après les élections. Bon, ça, c'est une anecdote. Mais toute notre distribution pour la reprise de cette production était sous le choc des événements historiques chez nous. Mais le moment, un des moments très touchants dans cette pièce de Kurt Weill est ce qu'on appelle le chant des canons. Les soldats américains qui sont partis en France en 1917 sont endormis et les canons parlent en disant « Nous sommes vos outils ». Nous avons été formés par vous. Et maintenant, c'est nous qui allons vous faire mourir. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Quelle perte? Quelle futilité? C'est un moment superbe.
Soldiers, soldiers, sleep softly now beneath the sky. Soldiers, soldiers, tomorrow under earth you lie. We are the guns that you have meant for blood and death. Strength is spent, obedient to your stern intent. Master soldiers, men, masters, masters, deep dark in earth as iron we slept. Masters, masters, till at your word to light we lent. We might have served a better will, plows for the field, wheels for the mill, but you decreed that we must kill. As the soldiers men, disturb your quiet bed, where we stand watching overhead. We are your tools and you the dead. Soldiers, 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 masters, men. Soldiers, masters, men.
Joël Cohen, on vient encore d'entendre une musique américaine qui revendique ses racines européennes, puisque Kurt Weill s'amusait à citer en pizz aux cordes une figure d'accompagnement de la sérénade de Schubert.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un, Weill est un personnage qui me fascine justement parce qu'il réussit quand il réussit. C'est un homme irrégulier dans le résultat, mais quand le résultat est là, il a des influences de la symphonie allemande, du jazz, de son style personnel, et tout ça, il arrive à sortir quelque chose d'unique.
Mais pour vous, ça s'imposait dans votre travail sur la musique américaine? C'est une continuation ou c'est une belle parenthèse?
Mais j'aimerais bien faire d'autres Kurt Weill. Il y a beaucoup de partitions de lui qui sont à peine jouées. Mais ce qui m'intéresse, comme personne qui a... Je me suis pas mal occupé de la musique très ancienne et je voulais appliquer la même méthode pour une partition qui n'a jamais été éditée. Johnny Johnson est toujours en manuscrit. Et j'avais les mêmes problématiques que pour une chanson troubadour. C'est-à-dire que vous voyez un truc qui est gratté sur un feuille de papier et ça veut dire quoi exactement? Et que qui sont rayés, des changements d'idées, des changements de timbre, une partie d'orgue électrique, mais comment sonnait l'orgue électrique en 1936? Il fallait faire tout ça, et encore, on n'est pas toujours sûr. Mais je voulais retrouver, dans la mesure du possible, le son d'un orchestre de théâtre en 1936. C'est pas évident, c'est pas facile. Et je recommande à tous les baroqueurs et médiévistes de faire des partitions de 1920 ou 30. Mais en étant aussi honnête que possible, vous allez voir, La résolution du problème de l'authenticité, entre guillemets, est loin d'être une chose simple.
Alors ce travail sur les sources, sur la circulation des mélodies entre les continents, ce travail sur un certain métissage des musiques, vous l'avez fait aussi du point de vue religieux, entre la musique chrétienne et la musique juive.
Oui, je fais, à ce moment, c'est une des choses qui me préoccupe le plus, c'est de retrouver des terrains d'entente entre ces traditions religieuses, notamment avec la musique indolo-arabe. On a aussi travaillé la musique judéo-provençale, qui est très intéressant, ce n'est pas du tout oriental dans le style, c'est plutôt gay comme Campra peut l'être ou Jean-Gilles peut l'être, mais avec des paroles en hébreu.
Alors on écoute justement un exemple de cet art judéo-provençal, si on peut parler d'art judéo-provençal, parce que ça ressemble beaucoup à du Lully ou à du Campra. Ouais. C'est une cantate donc d'un certain Saladin qui vivait ou bien à Avignon,
Dans
la région,
oui.
Et qui a composé cette cantate pour une famille juive. Il n'était pas juif lui-même, il l'a composée dans le style de la musique, disons officielle, pour la circoncision de l'enfant de la famille. Voilà, il est déjà presque l'heure de se quitter, il est bientôt minuit. Je rappelle aux auditeurs parisiens, Joël Cohen, qu'ils pourront vous retrouver au Théâtre de la Ville, ça sera samedi prochain à 17h. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous.
C'est un grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, Françoise Cordet bien sûr, Pierre Montiel et Philippe Bourget. Et puis c'est l'heure de retrouver Olivier Bernager, un de vos anciens camarades d'antenne sur France Musique, pour Vers la Nuit.